Merci beaucoup, Irène. Je passe la parole à Jean-Jacques Goroc, qui va faire un exposé intitulé « Le doute en certitude ».
Oui.
On va appuyer sur le... Voilà.
Alors, oui, c'est un énoncé un peu paradoxal, bien sûr. Le doute comme certitude. Alors, ça permet de parler de la certitude. Alors, pour ce qui est de la conviction, je dois dire, je laisse le débat sur certitude et conviction de côté, même si, un premier écart peut être rapproché, on peut dire que la certitude est objectivable, là où la conviction serait plutôt formée par un sujet. Mais bon, je laisse ça au débat et à la suite. Mais comment se fait-on une idée de la conviction de quelqu'un qui nous parle? C'est ainsi qu'énoncer un propos sous le chapeau du doute ne permet pas a priori de décider. Alors, je me souviens d'une présentation de malade assez ancienne où le patient se demandait s'il était le Christ. Il doutait. Alors certains le croyaient obsessionnel. Donc, il m'a fallu faire un certain effort pour expliquer que non, qu'il s'agissait d'une certitude délirante. Et notamment, à la fin de l'entretien, curieusement, a entretenu la difficulté, lorsqu'à la question que je lui avais posée, de savoir s'il allait reprendre son métier de mécano à sa sortie de l'hôpital, il me répondait en riant que peut-être, en faisant un signe de croix, il pourrait guérir les voitures. Alors, le fait qu'il en rit a mis en question pour les auditeurs qu'il s'agisse d'un délire et partant d'une certitude. Donc, c'est ça un petit peu la question du titre. Comment les convaincre? Comment convaincre donc ceux qui assistaient à cette présentation, même si dans ce cas on conviendra d'une certaine évidence, mais tout de même précisons, il s'agit du statut du signifiant, de cette certitude liée à ce qu'un mot soit dit ou non. Dans l'exemple du rêve, ce n'est pas ma mère, vous savez, rêve freudien par excellence. Freud décide, grâce à la présence du signifiant mère, associé à la négation, que donc, c'est sa mère, avec la certitude de la logique. Dans l'exemple donné, de la même façon, la présence du signifiant Christ, associé à la personne même du patient, décide avec certitude du délire. C'est-à-dire, de sa certitude à lui qu'il est le Christ. En effet, poser la question de savoir si on est le Christ implique qu'on est certain que c'est une possibilité, ce qui suffit à décider du délire. L'exemple est sans doute caricatural, mais sous des formes plus discrètes, il se présente à nous avec une grande fréquence, surtout quand on associe ici le doute et le rire. C'est pas selon une formule bien classique ce qu'on appelle délirer avec le malade, mais au contraire, partager avec lui le constat du rapport avec le réel comme impossible. C'est quelque chose qui se partage avec lui. Et d'ailleurs, effectivement, on peut rire avec le patient du délire, sans que ce ne soit pas un délire. Bon. De là, on peut saisir l'homologie avec le problème où Lacan pose avec le plus d'acuité, me semble-t-il, la question de la certitude. C'est le problème posé dans son article Le temps logique. La certitude est d'ailleurs dans le titre, hein. Je vous rappelle, Le temps logique est l'assertion de certitude anticipée. Alors, je rappelle brièvement le problème des trois prisonniers avec les ronds qu'on leur met dans le dos. Trois blancs, deux noirs. À charge pour eux de savoir avec certitude lequel chacun a dans le dos. On met à chacun des trois prisonniers les trois ronds blancs et chacun peut voir les dossards des deux autres, mais pas le sien. Alors, je ne vais pas reprendre le raisonnement que vous connaissez, je pense, et mettre l'accent sur ce pourquoi Lacan raconte l'histoire. Hein. Tout l'intérêt réside dans le fait que le raisonnement implique pour chacun les mouvements des deux autres. C'est-à-dire que pour arriver à trouver la solution, il faut que les deux autres trouvent la solution aussi. Ça, c'est-à-dire, c'est ce que les autres font ou ne font pas qui permet pour les trois de conclure en même temps qu'ils ont obligatoirement un rond blanc dans le dos. Et Lacan pousse le raisonnement à rendre obligatoire le départ simultané des trois, c'est-à-dire, ensemble, mais en deux temps, parce qu'est nécessaire la vérification qu'ils ont bien compris la même chose. Bon. Ce moment d'arrêt sur la voie du départ est essentiel dans la constitution de la démonstration. La certitude est certes logiquement déduite, mais elle inclut l'autre dans sa détermination, ainsi qu'une certaine temporalité. Il y a les deux qui sont impliqués. Eh bien, c'est qu'il nous faut expliquer ce à quoi sert le temps logique. Alors, je serai certainement en deçà de la démonstration, mais peut-être donner quelques pistes. C'est-à-dire, à quoi sert le temps logique et en quoi toute certitude n'est pas délirante. Ça ne va pas de soi non plus. Le réel dont parle Lacan, lui, est toujours pris dans une thématique de déduction. Il n'est pas saisissable directement, et d'ailleurs, il est recouvert ordinairement par le fatras des croyances, des préjugés que l'analyse est censée réduire quelque peu. Bien. Une remarque que je détaillerai pas non plus ici trop, cette modalité est présente aussi dans les ronds du nœud borroméen. Le réel existe aux deux autres ronds, imaginaires et symboliques, et s'ils sont égaux en droit, équivalents, dit Lacan, ils apparaissent néanmoins selon une succession temporelle, que Lacan ordonne dans un sens ou dans l'autre selon les cas, il fait ça dans les noms dupes R, dans son séminaire. Donc s'ils sont égaux en droit, ils apparaissent selon une succession temporelle, complexe, puisqu'elle y inclut l'après-coup, telle que le réel, posé de principe comme premier, ne peut qu'être retrouvé à partir des deux autres, et donc déduit. Alors, posons en première approximation que la certitude délirante repose sur un postulat qui se passe de la vérification à l'endroit de l'autre, comme c'est le cas dans le temps logique. Le délire suffit puisqu'il intègre l'autre dans sa l'autre, il faut y mettre un grand A, puisqu'il y intègre l'autre dans sa construction. Le statut de la démonstration mathématique, des petites lettres, comme dit Lacan, est convoqué pour assurer une certitude mathématique. Mais lorsqu'il s'agit de la science, de la démonstration mathématique, il semble qu'il n'y ait pas de nécessité à se référer à quelque autre que ce soit. Je dis « il semble ». C'est un problème auquel Lacan tente de répondre de bien des façons, et il mobilise, par exemple, Descartes et son malin génie, ou encore Pascal et son Paris. Et il y a d'autres occurrences du même type. sur l'intervention du grand hôte dans la science. Newton, bon, passons. Les mathématiques constituent une sorte d'idéal de la déduction. Cet idéal persiste, même si les théories impliquent la présence dans le raisonnement d'intuition et de probabilité. Le calcul de la certitude anticipée du temps logique est de cet ordre. Et il ajoute discrètement l'incertitude du sort des prisonniers. Parce que je rappelle que cet apologue a été publié très peu de temps après la guerre de 45. Donc, trois prisonniers. Bon. La mort comme sanction si on ne résout pas l'énigme. Ça vous rappelle un peu Édipe avec le sphinx, quoi. Où on répond à la question, où on y passe. C'est le cas des trois prisonniers. En somme, c'est la logique face à la mort. Vous pouvez imaginer ça comme Bergman dans le septième saut, où le héros joue aux échecs avec la mort. Vous vous souvenez de ça, peut-être. Alors, on se souviendra ici de ce qui a été développé la dernière fois par notre ami Tourcanou. Cette formule, enfin, autour de la formule, la mort est du domaine de la foi. Bien sûr, on doute toujours de sa propre mort. Et c'est pourquoi celle-ci peut faire l'objet d'un calcul. Comment savoir si Pascal précisément n'invente pas le calcul des probabilités pour assurer son pari? De sorte qu'on puisse accéder enfin à une certitude logique sur un matériau incertain. Voyez, le début, enfin le développement bien compliqué que Lacan propose à l'occasion de la lettre volée, pour montrer comment une série, bien que construite au hasard, comporte des séquences déterminées. Je n'entre pas dans le détail là aussi, renvoie au texte. Quel rapport avec la psychanalyse? Il y a la complexité introduite par la langue et ses équivoques. Leibniz, toujours dans l'ordre de la certitude mathématique, s'est affronté au problème en proposant une langue entièrement formalisée, mathématisable donc. Mais il échoue. La langue résiste. Comment y trouver quelques certitudes? Les logiques propositionnelles, qui donc visent à tenter cette formalisation à partir des énoncés de la langue, vont fournir le terreau susceptible de promouvoir la logique dans l'expérience qui est la nôtre. La question à laquelle il s'agit de répondre est bien celle de savoir si on peut acquérir quelques certitudes dans une opération de langage. Sur la question de la certitude délirante et dans le fil déjà proposé, on peut remarquer que Lacan a répondu dans le même sens quand il évoque Napoléon, qui s'est pris pour Napoléon à Sainte-Hélène, rédigeant ses mémoires. Napoléon rédigeant ses mémoires, s'est pris pour Napoléon. Toute identification à qui que ce soit, fût-ce à soi-même, et identification n'est sans doute pas le bon mot si on pense à l'identification freudienne, donc toute identification à soi procède d'une certitude délirante. C'est la thèse de Lacan, elle est explicite. Hein. La question « suis-je moi ?» est ainsi souvent l'indice d'une position problématique et à distinguer soigneusement d'un « je ne suis pas comme je voudrais », ce qui évidemment n'a rien à voir. Bon, alors, ceci évidemment permet de comprendre pourquoi aussi le doute sur le Christ qui nous... C'est-à-dire « je suis le Christ », n'est-ce pas, fait rire, mais on voit bien que même quand on dit qu'on est soi-même, il y a un risque. Voilà. Poursuivons. Dans la cure elle-même se pose le problème de la croyance et de la certitude selon une répartition qui serait, en première approximation, la suggestion du transfert face à la certitude de l'interprétation. Si l'interprétation est toujours interprétation du transfert, et vise à réduire les préjugés, soit les croyances, ce sera au nom d'une certitude. Alors, quelles sont ces armes ? Lacan nous donne l'équivoque comme son principe, mais il ajoute un constat sur ce qu'est une interprétation et lui donne un nom qu'il emprunte à Aristote, vous savez, l'apophantique. L'interprétation est apophantique. Donc, ça se traduit, ici on va le traduire simplement, l'interprétation est une affirmation. On pourrait penser qu'il s'agit là d'un constat inutile, puisqu'en effet, incontestable. L'interprétation qui dit « tu l'as dit » est affirmation. Apophantique, donc. Ce que tu as dit, tu l'as bien dit. Il ne s'agit donc pas d'une opinion, mais d'une certitude, à ce niveau-là. Ce que ça dit précise plutôt que tout autre mode d'énoncer, ne relèverait pas a priori de l'interprétation. La contradiction semble se faire jour avec l'autre dimension, l'équivoque, qu'on imagine supporter une alternative, un doute, puisqu'il y a un double sens entre lesquels il faudrait choisir. Or, il n'en est rien. C'est d'autant plus drôle quand notre langue dit que c'est équivoque, comme vous savez, aucune ambiguïté n'est plus permise. Un seul sens est convoqué, précisément le sens sexuel. Lacan n'hésite pas, entre les lignes d'ailleurs, à évoquer cet équivoque-là. Chaque fois qu'il parle d'équivoque. L'équivoque de l'interprétation ne mise pas sur un doute, ni sur quelque crédulité. Il s'agit en réalité d'affirmer qu'il existe un double sens et que les deux sens sont à maintenir présents. On oublie facilement que tout l'effort de Lacan pour dégager le sujet comme effet de signifiant implique bien deux signifiants. Et que si on a dit un autre mot que celui qu'on voulait dire lorsqu'on a fait un lapsus par exemple, non seulement cela n'élimine pas ce mot qu'on voulait dire, mais il reste partie prenante de l'ensemble constitué par les deux signifiants. C'est ainsi que l'opération qui affirme une équivoque relève d'une certitude qui doit sa force à la logique qu'elle met en œuvre. Mais ce serait trop simple s'il n'y avait une complication dans la phrase que propose Lacan pour l'interprétation. La phrase qu'il dit, pas tout à fait celle que j'ai dite, c'est « je ne te le fais pas dire ». Bien. Cette fois, même si l'affirmation est toujours bien là, encore faut-il que l'analysant adhère à cette proposition que ce n'est pas l'analyste qui est responsable, qui est la cause du lapsus, si on prend l'exemple du lapsus. La croyance, avec le transfert, reprend ses droits, au sens où la supposition de savoir est telle que le propos est attribué avec une grande facilité à l'analyste. L'analyste qui a fait le lapsus. Clairement, il ne croit pas que l'analyse soit pour rien dans ce que lui, l'analysant, a dit. C'est sûr, le psychanalyste le lui a fait dire. Et d'ailleurs, n'est-ce pas ce qui implique le fait que Lacan dise que l'analyste est semblant d'objet. Ça implique ça. Quelque chose a été dit, mais une incertitude demeure sur qui l'a dit, ou qui a fait que ce soit dit. On peut en suivre l'approche avec justement la supposition de savoir elle-même, attribuée à l'analyste au départ, avant qu'on comprenne que le savoir en question, c'est l'analysant qui, avec sa parole à lui, le détermine. Et on peut comprendre que la croyance transférentielle puisse perturber la certitude incluse dans la logique de l'interprétation. Alors, un point donc qui me paraît important, c'est comment s'articule l'interprétation avec le temps logique. On aura noté que l'apologue des trois prisonniers implique qu'ils soient trois, et trois semblables, Et comme moment conclusif, il y a deux temps nécessaires pour scander la décision. Ils partent, ils se regardent et ils sortent. L'interprétation semble se faire entre deux qui ne sont pas à la même place et selon une temporalité qui ne fait pas apparaître ces deux temps. Et pourtant, on sent bien que la certitude qui émerge devrait être du même ordre, soit une certitude acquise logiquement et en fonction de l'autre. Pour y répondre, je crois qu'il faudrait un développement plus long que je ne fais, donc je m'en tiens à quelques remarques qui unifient quelque peu les deux procès. D'abord, l'autre est indispensable. Il est intégré dans le calcul. Ensuite, le discours analytique implique de compter jusqu'à 3 au moins. Enfin, la dimension temporelle avec l'après-coup est bien présente dans l'interprétation analytique. Comme on sait, les modèles de l'interprétation que Lacan rappelle à l'occasion de cette apophantique sont l'oracle et l'interprétation délirante. Vous vous souvenez, c'est dans l'étourdie. Ils sont là pour appuyer cette certitude, liée à l'énonciation même que Lacan a apprise avec la psychose, et cette opposition bien nette entre croyance et certitude que marque l'Unglauben. L'incroyance radicale du sujet psychotique. Alors je rappelle ici que la croyance en Dieu, comme la mort, reste un acte de foi, et que la certitude de l'existence de Dieu, au contraire, n'est pas un signe de foi. Ce pourquoi les mystiques ont été de tout temps et dans toutes les religions suspectés, voire pourchassés. S'ils sont sanctifiés, c'est plutôt après leur mort. Donc, ne confondons pas ici l'Unglauben, l'incroyant, avec l'athée, qui reste, quoi qu'il en est, un croyant. Je n'insiste pas, un croyant, quelqu'un qui croit, et je n'insiste pas sur cette question déployée à de multiples reprises dans l'enseignement de Lacan sur l'athée. Pour les croyants, la signification phallique que nous sommes, car c'est là le sort du névrosé, la relation que nous entretenons avec cette signification, il faut souligner qu'elle ne fait l'objet d'aucune certitude. À vrai dire, nous ignorons que cette signification phallique, nous sustente, nous soutient. Et de ce fait, tous les doutes sont permis. Qu'il mette en jeu l'autre en le questionnant, et c'est l'hystérie, ou que les sujets se prennent à douter d'eux-mêmes, et c'est l'obsession. Bon, j'ajoute un mot de cette affirmation faite avec cette certitude que permet la logique. L'affirmation, c'est « il n'y a pas de rapport sexuel ». Elle pourrait paraître contredire la croyance du névrosé évoquée plus haut. Cette croyance que l'amour vaudrait rapport sexuel. C'est qu'ici, le rapport sexuel se présente comme un acte de foi pour le névrosé, qui résiste à la déduction selon laquelle il n'y a pas. Il y résiste avec son symptôme, on l'a évoqué juste avant, mais le symptôme, une fois repéré, dans quelle mesure y croit-on, c'est une autre histoire qui a déjà été évoquée là, et qui, je pense, sera reprise par la suite. Je vous remercie.